Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à vous, Arthur de Vatrigan.
Bonsoir.
Le point sur l'information et on commence l'émission dans un instant. Bonsoir, Augustin Donadieu.
Bonsoir, Elliot. Bonsoir à tous. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, attendu lundi soir à l'Élysée pour ses 80 ans. Dans un contexte de hausse des actes antisémites, le chef de l'État a convié l'organisation devant laquelle il prononcera un discours à partir de 18h lundi. Le Premier ministre Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin seront également présents. Près de 4 mois après la mort de Thomas à Crépol, les enquêteurs n'ont toujours pas de certitude sur l'auteur des coups de couteau qui ont mortellement blessé le jeune homme. Lundi, 11 personnes ont été interpellées, 5 ont été mises en examen pour homicide involontaire et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Ils viennent s'ajouter aux 9 personnes, elles aussi mises en examen en novembre dernier pour les mêmes chefs d'accusation. Et de nouvelles frappes ont touché le sol russe aujourd'hui, alors que le pays est en pleine élection présidentielle. Cette attaque a entraîné la mort de 2 personnes. 8 roquettes ont été abattues. Vladimir Poutine, promis à une réélection triomphale, a juré de répliquer à cette nouvelle attaque.
Merci pour le point sur l'information, Augustin Donadieu. À la une de Face à Mathieu Bock-Côté, le monde médiatico-politique s'égosille autour de l'extrême droite discret pour parler de l'extrême gauche et d'un silence assourdissant en matière d'extrême centre. Qu'est-ce que l'extrême centre? Son identité, son projet européen par exemple? On en parle dans un instant. À la une également, c'est un accord qui en a surpris plus d'un entre ChatGPT et le journal Le Monde. L'entreprise américaine aura accès au contenu du quotidien national pour nourrir et fiabiliser les réponses de l'ogre ChatGPT en échange d'une somme significative de revenus. Mais alors, ChatGPT va-t-elle suivre la ligne éditoriale du Monde? L'avis de Mathieu Bock-Côté. Enfin, Mathieu, vous recevez ce samedi l'ancien sénateur belge et ex-secrétaire général de Médecins Sans Frontières, Alain Destex, auteur, entre autres, de « L'Occident commence en Terre Sainte ». Il sera question de la Belgique, bien sûr. La Belgique est-elle l'avenir de l'Europe? Mais également de ce fameux cordon sanitaire. Voilà le programme de Face à Mathieu Bock-Côté. On est ensemble jusqu'à 20h. Cher Mathieu, commençons avec cette formule. C'est une formule d'ailleurs que vous utilisez souvent pour caractériser le politiquement, le bloc central dans les sociétés européennes, l'extrême centre. On parle beaucoup d'extrême droite, d'extrême gauche, mais l'extrême centre rarement. Et à la lumière de l'évolution de l'actualité cette semaine, et plus encore ces dernières semaines, vous souhaitez y revenir pour chercher à comprendre son projet politique.
Oui, alors extrême centre, le terme est revendiqué par certains, je le précise. Hein. Extrême droite, jamais. Extrême centre, il est revendiqué par certains. Ce n'est pas un détail ici. Et pourquoi il faut chercher à comprendre le projet politique de ce qu'on appellera l'extrême centre à la suite de certaines de ces figures importantes? Parce qu'il décrit bien la réaction à la fois sociologique et idéologique et politique de ce qu'on pourrait appeler les élites dominantes des sociétés européennes, les élites mondialisées, les élites européistes, les élites progressistes et libérales et technocratiques tout à la fois, qui se sentent fragilisées, qui se sentent déstabilisées par les mutations politiques des temps présents et qui, devant cela, sont obligées de préciser leur projet et sont obligées de, c'est important de le dire, de changer leur manière de faire de la politique parce qu'elles se sentent inquiétées par une poussée, et j'arrive tout de suite à cet élément. L'extrême-centre nous dit il y a une poussée populiste. Mais qu'est-ce qu'un extrême-centre là-dedans? Bon, c'est d'abord et avant tout, on pourrait dire, ce sont les élites mondialisées, progressistes, libérales, qui se veulent libérales, qu'ils sont plus ou moins, qui dirigent les sociétés européennes, et par ailleurs, qui nous disent, devant cette poussée populiste, qu'elles assimilent à l'extrême-droite, qu'elles assimilent à la haine, elles nous disent, nous sommes désormais les seuls défenseurs légitimes de la démocratie. Nous avons le monopole sur l'état de droit. Nous avons le monopole sur la démocratie. Nous avons le monopole sur le pluralisme. Nous avons le monopole sur la vie publique respectable et acceptable. On pourrait y voir l'ultime manifestation du parti unique des années 90, l'ultime manifestation du cercle de la raison, pour reprendre une formule que l'on prêtait autrefois à Alain Minc. Donc l'ultime, c'est d'ailleurs qui se présente comme le parti, le bloc des modérés. Il se croit très modéré, l'extrême-centre. C'est intéressant. Et ils nous disent, les sociétés occidentales sont traversées par un populisme conquérant, sont traversées par une haine qui monte. D'ailleurs, on traite, c'est assez intéressant, on traite l'opposition politique sur le mode de la manifestation fiévreuse. On va parler de la fièvre populiste, de la montée des différentes phobies. Ce n'est pas un projet politique qu'ils assimilent au populisme qui émerge. Pour eux, c'est une forme de montée de l'irrationnel devant laquelle nos élites doivent justement se montrer courageuses et ferme et casser cette poussée de l'irrationnel assimilée au populisme, à la haine, à l'extrême droite. Dès lors, le mythe de Weimar est mobilisé. Par mythe de Weimar, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est évidemment qu'aurait dû faire la démocratie allemande pour empêcher l'avènement des nazis au pouvoir. Eh bien, la démocratie de Weimar était trop faible et a laissé les nazis s'emparer du pouvoir. On se dit aujourd'hui, on ne doit pas faire la même erreur qu'à Weimar. Et il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour empêcher des forces d'opposition de s'emparer du pouvoir. Dès lors, puisqu'on est devant des populistes xénophobes, transphobes, europhobes, régressifs, réactionnaires d'extrême droite haineux et racistes, eh bien, si on est devant une telle menace, tout est permis. Tout est permis. L'état d'exception doit être institué, mais on va chercher à dissimuler l'état d'exception derrière une radicalisation de l'état de droit. Alors, pourquoi vous me direz pourquoi tout ça? Parce que la semaine nous oblige à parler de cela. Un projet a été présenté ces derniers jours, a été voté à l'Assemblée d'ailleurs en premier vote. Maintenant, ça va être le tour du Sénat. La loi sur les propos haineux, donc, qui vise à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire. J'en ai parlé cette semaine un peu à Face en Info, mais je me permets d'y revenir pour donner le contexte plus large de cela. C'est une loi donc qui entend radicaliser le combat contre les propos dits haineux. Le prétexte qui est donné par le pouvoir, c'est, depuis le 7 octobre, montée de l'antisémitisme. On pourrait comprendre dans ce contexte. Mais le vrai contexte d'une telle loi, dans les faits, c'est la multiplication partout en Occident, comme on l'a vu en Irlande, comme on l'a vu en Écosse, de lois qui visent à étendre le domaine des propos interdits, étendre la définition des propos haineux et étendre le pouvoir que se donne le gouvernement ou les différentes autorités de surveiller les conversations, les débats des uns des autres pour étendre le domaine de la pénalisation des propos interdits, des propos haineux. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette proposition de loi? Mais il y a notamment l'extension du domaine, en fait, de la pénalisation des propos. Il y a donc ceux dans l'espace public, mais on va étendre ça maintenant au domaine non public. On va nous expliquer que ce n'est pas le privé. Hein, parce que le privé, ce serait seulement l'oreiller, globalement, et une conversation à la maison, entre soi, à l'abri de tout. Là, c'est peut-être un domaine où on peut parler librement. Mais désormais, une conversation dans une boucle WhatsApp, sur un groupe Facebook, mais aussi dans l'entreprise, au restaurant peut-être, eh bien, ça peut tomber sous le coup de la loi si des propos dits haineux y sont tenus, ou des propos discriminatoires, ainsi de suite, ou négationnistes. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça fonctionne sur l'appel à la délation. Dès lors que vous vous dites les propos non publics peuvent être soumis à la pénalisation de l'État, eh bien, ça implique donc qu'il doit y avoir quelqu'un qui décide de rapporter ses propos publiquement. Donc, l'État incite désormais chaque citoyen à se comporter potentiellement à la fois comme un surveillant de son voisin et comme un délateur qui a la responsabilité civique de dénoncer celui qui tiendrait des propos haineux. C'est une société de surveillance qui s'installe à travers cela. Et c'est absolument inquiétant, et c'est dans l'actualité cette semaine, je le précise. Donc, au terme de ça, c'est quoi l'idée? C'est pour lutter contre la haine qui monterait de partout, il faut étendre la capacité de surveillance du commun des mortels lorsqu'il s'exprime, donner plus de moyens à l'État pour pénaliser les discours que l'on juge inquiétants. J'ajoute une chose. Quand le défenseur de ce projet l'a défendu cette semaine, il a dit « si quelqu'un dans l'entreprise dit « sale juif », c'est plus facile de le poursuivre ». Très bien, on peut comprendre l'idée. Dans ce cas-là, ce serait effectivement atroce. Mais quand on voit l'extension de la définition des propos haineux aujourd'hui, si quelqu'un se revendique de la fameuse théorie du grand remplacement, dont je ne me revendique pas, Mais si quelqu'un le fait, on sait que pour la presse de gauche, cette théorie, entre guillemets, est présentée comme étant systématiquement raciste et conspirationniste. Eh bien, celui qui va tenir un tel propos à la machine à café à l'entreprise, est-ce qu'on peut désormais le poursuivre? Celui qui conteste la théorie du genre en disant que jamais un homme ne pourra devenir une femme et une femme ne pourra devenir un homme, et qui conteste donc, qui va en venir presque à mégenrer ceux qui se voient aujourd'hui sous le signe de cette identité de genre transgressive, est-ce que ces gens-là, il va falloir, on sera en droit de les pénaliser, de les poursuivre? Donc, jusqu'où va s'étendre le contrôle par l'État des propos dans l'intime, dans le privé? Mais là, je vais donner deux ou trois autres exemples pour montrer, quand je parle du projet de l'extrême centre ici, donc c'est une tentation autoritaire de restreindre le débat public parce qu'on considère que tous ceux qui disent le contraire, que le discours diversitaire sur l'État de droit, entre guillemets, seraient en fait des gens qui mettraient en danger la démocratie. Pensez à l'European Media Freedom Act, dont on a parlé ces derniers jours, qui prétend, c'est génial, prétend défendre le pluralisme démocratique à la grandeur de l'Europe, mais si, et donc prétend protéger la liberté éditoriale, la liberté des journalistes, mais quand on regarde dans quel contexte se présente cet acte européen, ça dit que les médias doivent être au service de la lutte démocratique contre les extrêmes. Il n'y a pas d'extrême centre dans ce cas-là. Donc, les médias sont invités à faire un travail de propagande active contre ce que le régime appelle les extrêmes, gauche-droite. Est-ce que c'est véritablement ce qu'on entend par pluralisme? Ou encore une fois, on nous dit que certaines oppositions, on doit mobiliser les médias publiquement pour frapper d'interdits les oppositions. L'interdiction des colloques, dont on a souvent parlé, c'est avec la fameuse circulaire dont on a parlé beaucoup l'an passé, hein, l'interdiction du colloque vénère, l'interdiction de manifestations contre l'immigration massive ou l'installation de centres de clandestins dans certaines villes, l'appel au contrôle des médias, comme on l'a vu récemment avec une chaîne info qu'on me permettra poliment, avec décence, de ne pas nommer. Mais l'appel au contrôle des médias, certains vont jusqu'à proposer la fermeture, ce n'est pas un détail. Donc, globalement, l'appel à l'interdiction de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je résumerai ça de la manière suivante. L'extrême-centre veut sauver la démocratie, l'état de droit, en persécutant ceux qui sont en désaccord avec sa vision très particulière de l'avenir de nos sociétés, en persécutant les adversaires de la société diversitaire, en persécutant ceux qui n'ont pas la même lecture des libertés et de la démocratie que ne l'ont nos élites mondialisées.
Mathieu Bock-Côté, le projet de l'extrême-centre se limite-t-il à maîtriser les termes du débat public pour éviter que ne prenne forme une sorte de discours alternatif?
Alors, ça va plus loin. Vous avez raison de mentionner, on est à la première étape, c'est reprendre en main le discours public pour empêcher que les discours alternatifs existent ailleurs que dans les marges. Mais ça va plus loin. Il y a la question de l'immigration qui est évidemment centrale dans l'extrême-centre. On le voit aujourd'hui. Alors, à la différence de la gauche radicale, l'extrême-centre n'est pas sur le mode « il faut accepter tout le monde inconsidérément, no one is illegal, tout le monde, les frontières ne veulent rien dire ». L'extrême-centre a une rhétorique plus sophistiquée. Elle dit qu'il faut lutter contre l'immigration illégale, mais il faut maximiser les possibilités de l'immigration légale. Et ça, on le voit notamment avec le discours européen et européiste qui est très porté sur le transvasement démographique, d'un continent vers l'autre, d'une civilisation vers l'autre. Et on nous dit pour la dynamique économique de nos sociétés, cette immigration massive, elle est nécessaire, elle doit être encadrée, elle doit être favorisée, mais dans des paramètres légaux que nous changerons. Donc, il faut organiser l'immigration massive. Et de ce point de vue, il y a tout le discours diversitaire qui est très, très porté. À la rigueur, qu'on conjugue en disant, oui, il y a les grandes valeurs républicaines de nos sociétés, mais le discours diversitaire est très fort. Il y a aussi, et ça me semble important, une petite chose peut-être, oui, sur même la politique étrangère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent une politique étrangère qui se veut très néoconservatrice, hein, sur le mode de la croisade démocratique qu'on doit... Dans le conflit ukrainien, c'est assez marquant. Donc, c'est une chose d'être solidaire des Ukrainiens, et nous le sommes avec raison. C'en est une autre de considérer que la seule forme de patriotisme légitime consiste à vouloir se confronter le plus directement possible avec la Russie. Inversement, cela dit, le patriotisme n'aurait rien à voir avec le fait de défendre l'identité française chez soi. C'est un peu original, ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a d'autres éléments aussi là-dedans. Il y a le fantasme dans l'extrême-centre d'une société intégralement quadrillée. On le voit, donc intégralement surveillée. Au nom, encore une fois, de la défense des libertés, nous dit-on. Donc, on le voit avec les JO. C'est intéressant. Les JO qui vont encore une fois servir sur le mode de la grande répétition, en quelque sorte, pour la société du QR code, pour la société où on doit, d'une manière ou de l'autre, présenter le passage de la société de liberté à la société d'autorisation. L'écologisme autoritaire aussi, qui justifie, aujourd'hui, on le voit avec le Green Deal, mais ça va au-delà de ça, une société, encore une fois, qui encadre tout au nom de la transition énergétique. Donc, vous voyez, c'est un projet plus vaste, mais qui se présente sous le signe de la technocratie progressiste absolument insurmontable.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'extrême-centre, comme vous l'appelez, se revendique pourtant du libéralisme. Est-ce complètement faux ?
Je crois. Elle se revendique assurément. Parce que le libéralisme, c'est limiter le pouvoir. Il ne faut jamais l'oublier. C'est des règles fermes et limiter le pouvoir et limiter l'arbitraire. Or, ce qu'on voit depuis un temps, c'est l'arbitraire au nom de l'état de droit. C'est dramatique. Non, ce qu'on voit avec les lois sociétales qui se multiplient, on voit une forme de sacralisation de l'individualisme dans toutes ses revendications. Ça, c'est vrai. Donc, on le voit avec une forme de fascination pour le transhumanisme. On veut toujours pousser plus loin la figure de l'individu absolu. Mais pour moi, ça, c'est pas du libéralisme. C'est, à la rigueur, c'est une forme de nihilisme, de contemplation dans la figure de l'individu tout puissant. On le voit, donc, l'enthousiasme pour les lois sociétales qui se multiplient. Je note que sur ces questions-là, l'extrême-centre est connecté effectivement aux préférences réelles d'une partie de la population qui dit étendre toujours davantage le pouvoir de l'individu en toutes les circonstances, quitte à abolir toutes les formes d'identité culturelle, anthropologique, naturelle. Au final, on pourrait dire qu'est-ce que l'extrême-centre? C'est le sursaut de fin de parcours d'un régime et d'une idéologie qui se sent menacée par l'existence d'un autre discours que lui et qui, pour cela, verse dans l'autoritarisme en croyant défendre la démocratie libérale. Certains y verront un paradoxe, d'autres une fraude.
Voilà pour le premier édito. Je me tourne vers vous, Arthur de Vatrigan. Normalement, vous rebondissez sur cette question là, en l'état de l'extrême-centre, mais vous vouliez revenir sur les 20 ans du projet de loi la laïcité, ce qui a encadré notamment le port du voile.
Le port du voile, exactement. 89, affaire du voile à Creil. 2004, un vote de loi. 2024, on a toujours les problèmes avec la baïa. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une offensive islamique à l'école. Il faut revenir au texte de loi, parce qu'on dit toujours interdiction du port du voile. Mais en fait, le texte de loi, il est écrit que la loi interdit, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues, manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Je pense que s'il faut comprendre l'échec 20 ans après, c'est justement parce qu'il n'est ni question de voile, de religion, pardon, ni question de laïcité. Le mot religion est un fourre-tout. On sait que c'est un préservatif qui est là pour protéger le législateur, l'intellectuel, le journaliste, pour éviter de se faire accuser de discrimination. Et d'ailleurs, parler de religion en mettant dans le même sac hindouisme, judaïsme, christianisme, islam, ça n'a aucun sens. Tout le monde le sait. Et on va dire, oui, il y a des croyances, des dogmes et des rites. Tout le monde sait qu'on n'a pas besoin de Dieu ni de transcendance pour en avoir. On le voit tous les jours avec l'écologie, avec les droits de l'homme, avec le progressisme. Depuis 89 et le problème de l'affaire du voile, la Creil, la France n'a pas un problème avec une religion, elle a un problème avec l'islam. Parce que l'islam, justement, n'est pas qu'une religion. C'est une religion, mais c'est aussi une culture, ce sont des lois, et une histoire, c'est-à-dire une civilisation. Or, nulle part dans l'histoire ni dans le monde, deux civilisations que tout oppose ont coexisté sur le même sol, sur le même territoire. Alors on nous explique encore aujourd'hui, on a la solution, c'est la laïcité. Sauf que je ne dis pas que la laïcité n'a pas été utile à un moment, sauf que je me rends compte que 20 ans plus tard, c'était un pansement sur une jambe de bois. Pourquoi ? Parce que, premièrement, la laïcité, loi de 1905, ça a été taillé uniquement à la mesure du christianisme. L'un des penseurs de la laïcité a écrit une thèse de lettres sur saint Thomas d'Aquin et sur saint Bernard. Donc c'est quelque chose qu'il connaissait. Deuxièmement, on entend toujours la laïcité est une spécificité, une particularité française. Il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi. C'est une spécificité, une particularité française parce que la France est ou était chrétienne. C'est-à-dire que la distinction du temporel et du spirituel existait déjà. C'est pas la République qui l'a inventé. La séparation de l'Église et de l'État, malgré ce qu'on nous raconte aujourd'hui, existait déjà. Il y avait une coopération très forte, certes, mais la séparation existait. La loi de 1905 a mis fin à cette coopération. Et troisièmement, la loi de 1905 était très brutale, on a vu deux camps s'opposer, c'était très rude, sauf qu'ils se sont réconciliés sur quoi ? Sur fond de patriotisme. La Grande Guerre. C'est-à-dire que vous avez des catholiques et des athées qui sont allés se faire tuer, sur le fond, pour défendre leur histoire, leur culture et leur territoire. Donc on peut légitimement se poser la question aujourd'hui de est-ce qu'il existe un commun entre les défenseurs du voile et de la baïa et ceux qui attaquent la loi de 2004, et les autres. C'est-à-dire est-ce qu'il y a un commun qui les pousserait à se sacrifier les uns pour les autres aujourd'hui. Dernière chose enfin, la laïcité n'est ni une arme ni un outil. Ça signifie la neutralité de l'État et l'État est laïque justement parce que la société n'est pas laïque. Donc la question n'est ni juridique ni religieuse, elle est purement culturelle. D'ailleurs, lorsque vous écoutez les opposants à la loi de 2004, ils ne se revendiquent jamais de la religion. Ils ne disent pas c'est au nom de la religion que je veux faire ça, ils disent c'est au nom de la liberté. C'est-à-dire qu'au nom des droits de l'homme, je veux pouvoir pratiquer mes mœurs, mes cultures, mes coutumes, même si celles-ci sont opposées au pays dans lequel je vis. Donc la France n'est pas attaquée par des religions, elle n'est pas attaquée par une religion, elle est attaquée par une culture islamique. Et cette culture, on le sait, a été importé dans les bagages de l'immigration et a prospéré parce que depuis longtemps, on a transformé la France en une société exclusivement définie par les droits individuels. Or, une société n'existe pas sans cadre, une société n'a pas d'avenir sans passé, et une société n'a pas d'identité sans culture. Donc la question qu'on se pose, c'est s'il n'est pas trop tard, il serait peut-être temps de redéfinir la culture dans laquelle on souhaite, qu'on souhaite et dans laquelle on souhaite vivre.
Voilà pour l'analyse d'Arthur de Vatrigan. Revenons à vous, cher Mathieu Bock-Côté. On va parler de cette alliance entre Le Monde et ChatGPT. On apprenait cette semaine qu'un partenariat a été noué entre Le Monde et OpenIA, autrement dit ChatGPT. Le journal du soir servira de référence de validation des informations. On présente en certains lieux ce partenariat comme une excellente nouvelle. Mathieu Bock-Côté, est-ce votre avis ?
Je vous laisse deviner, cher Elliot. Mais parce que, oui, je vais quand même préciser. Non, moi, je trouve que c'est catastrophique. On s'inquiétait déjà de ChatGPT woke. Rappelez-vous, on en parlait beaucoup.
Bien sûr.
On constate que l'intelligence artificielle est configurée avec des algorithmes qui sont idéologiquement orientés. Ça, on le savait déjà. Si, et là, l'enjeu pour ChatGPT, c'est d'avoir une source de validation extérieure dans la production de l'information. En tant que tel, le souci est fort légitime. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers cela? C'est que si on se tourne vers Le Monde, qui est un journal honorable, je n'attaque pas en tant que tel le fait que ce soit un journal légitime, mais décider de fixer Le Monde comme la ligne, le cadre de référence légitime, est-ce que ça implique qu'on assume les orientations idéologiques de ce journal? Parce que c'est un journal qui, aussi de référence soit-il, a des orientations idéologiques bien marquées. Est-ce que ça implique qu'on intègre notamment le système de catégorisation du réel qu'on trouve dans Le Monde, de l'espace politique? Le Monde est un journal qui abuse, disons le poliment, du concept d'extrême droite. Il abuse du concept d'ultra-conservateur. Je me permettrai de raconter un échange, je ne dirai pas avec qui, je suis un homme poli. Une fois, un journaliste de ce journal me traite d'ultra-conservateur.
Oh.
Et je l'appelle, je dis « Cher monsieur conservateur, bon, si vous voulez à la rigueur, allez-y, mais pourquoi ultra? » Il me dit « Je ne sais pas, Ah, vous avez raison, mais bonne question. Je dis, vous devez savoir pourquoi vous avez écrit ce mot. Donc, vous devez avoir une distinction dans votre esprit entre conservateur et ultra-conservateur. Il me dit, j'y penserai pour la prochaine fois. Donc, vous voyez que c'est... Mais là, je dis ça, le terme a été collé rapidement. Mmh. Et ensuite, il est repris en charge. Je note que le concept d'ultra-conservateur a été repris ensuite dans le fameux rapport Jost qui a fondé la décision du Conseil d'État, qui établit aujourd'hui des conséquences aujourd'hui que l'on sait désastreuses. Donc, est-ce que ChatGPT doit institutionnaliser et normaliser et présenter comme si elles étaient neutres les orientations idéologiques du monde et c'est son système de catégorisation du réel, cela m'inquiète.
François Just, les références, c'est Le Monde et Wikipédia.
Oui, bien sûr.
Également, donc ça vous détermine le personnage. Il nous reste 1 minute 40, je vous sais, chirurgical avant la publicité. Autrement dit, tout cela nous ramène à la question de l'étiquetage politique et idéologique sur laquelle vous revenez fréquemment.
Elle est fondamentale. On nous parle aujourd'hui de pluralisme.
Oui.
Pourrais-je savoir quels sont les critères qui permettent de dire le pluralisme aujourd'hui? Le clivage gauche-droite, le clivage souverainiste-européiste, le clivage autoritaire-libertaire, quels sont les clivages? Or là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'un journal en particulier, avec son orientation idéologique en particulier, aura une capacité d'orienter la connaissance et la production de connaissances.
Mm-hmm.
La guerre du récit se radicalise à travers cela. Et quand on voit l'importance de ChatGPT dans l'école aujourd'hui, l'importance que va prendre aujourd'hui l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut redouter, moi je le crains, une forme de lysenkisme cognitif? Donc il va falloir s'extraire du système de l'intelligence artificielle pour avoir accès à une connaissance qui ne soit pas biaisée idéologiquement. Je m'inquiète de cela et je tenais à en parler ce soir.
Très rapidement, Arthur de Vatrigan, s'il vous plaît.
Oui.
ChatGPT, Le Monde disait, bonne nouvelle ou pas?
Ah non. Le problème de l'IA de Baudrillard, c'est qu'elle n'est ni intelligente ni artificielle. Tous les grands romanciers nous l'avaient annoncé. La machination des fonctions humaines constitue une pièce de choix dans la panoplie d'un système idéologique. Alors, ce système, évidemment, sert à désactiver les pensées. Sauf que tout être, même artificiel, surtout s'il est performant, doit être éduqué. Donc ça tombe bien, il faut trouver des éducateurs. François Jost nous expliquait il n'y a pas longtemps que la référence était Le Monde. On a encore vu cette semaine, un journaliste de France Info a été suspendu parce que Le Monde l'avait dit. Le Monde, c'est le nouveau Jacques a dit, quoi. C'est le Monde a dit, donc on agit. Tant que Le Monde ne dit pas, on n'agit pas. Et donc, quoi donc? Et qui donc meilleur éducateur pour former ChatGPT que Le Monde?
Eh bien, merci, Arthur de Vatrigan. La publicité, on revient dans un instant, puisque vous recevez le sénateur honoraire belge Alain Destex, ex-secrétaire général de Médecins sans frontières. A tout de suite pour cette deuxième partie, seconde partie passionnante. Quasiment 19h30 sur CNews, le point sur l'information avec Augustin Donadieu.
Un drame aujourd'hui à Aubervilliers. Une jeune fille âgée de 10 ans a perdu la vie ce matin, écrasée par un car de tourisme. Le conducteur qui a percuté l'enfant affirme ne pas l'avoir vue. Son dépistage à l'alcool et aux stupéfiants s'est avéré négatif. L'enfant a traversé la route alors que le feu était au vert pour les voitures. Une cellule psychologique a été ouverte dans le collège de la banlieue de Dijon. Un élève de 15 ans s'y était introduit avec un couteau vendredi et avait menacé la principale de l'établissement. La qualification terroriste n'est pour l'heure pas retenue. Les enquêteurs indiquent que l'élève de 3e n'a pour le moment ou fourni aucune explication sur ses motivations. Et enfin, permission de minuit accordée aux terrasses estivales parisiennes. La mairie de la capitale autorise les bars et restaurants à accueillir des clients 2 heures supplémentaires durant les Jeux Olympiques. Ils pourront même rester ouverts toute la nuit des cérémonies d'ouverture et de clôture.
Une bonne nouvelle, Mathieu Bock-Côté.
Ah, recevoir des permis, c'est formidable.
On prend des On est toujours avec Mathieu Bock-Côté, Arthur de Vatrigan. Merci Alain Destex d'être présent sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes sénateur honoraire belge, ancien secrétaire général de Médecins Sans Frontières. Et puis vous avez écrit un livre qui va paraître début avril, le 7 avril si je ne m'abuse. Rwanda 1994, le carnage. Pourquoi Mathieu Bock-Côté avoir invité ce samedi soir Alain Destex?
Parce que la Belgique s'invite souvent dans nos débats. On le voit, notamment dans tous les débats sur le pluralisme, dans les médias. On a vu, dans ces derniers temps, plusieurs personnes dire que la Belgique nous donne, en fait, la marche à suivre avec sa politique du cordon sanitaire. Elle aurait été capable d'organiser le débat public en évitant que des forces indésirables ne parviennent à s'y inviter. Moi, je regarde ça de manière inquiète. J'ai souvent dit que la Belgique francophone est un des endroits les moins démocratiques d'Europe occidentale. D'autres nous disent que c'est un modèle de démocratie. Alors, allons voir directement la bête entre eux et demandons une figure qui était au cœur de la vie politique belge pendant longtemps, Alain Destex, de nous éclairer sur ce modèle belge. Alain Destex, bonsoir.
Bonsoir, Mathieu.
Alors, cordon sanitaire, la formule, c'est répandue un peu partout en Europe, mais elle vient de Belgique et de Belgique francophone. Alors, qu'était le cordon sanitaire à l'origine et existe-t-il encore aujourd'hui?
Oui, alors on voit effectivement qu'il y a une tentation en France de copier le modèle francophone belge, mais en attendant, il n'existe aujourd'hui qu'en Belgique francophone. C'est vraiment une exception en Europe. Alors c'est quoi le cordon sanitaire? Déjà, le nom lui-même dit il faut écarter les malades, les pestiférés, les lépreux, on met à l'écart. Et puis il y a deux volets, il y a un volet politique et un volet médiatique. Alors le volet politique, d'abord il faut bien voir qu'en France, en Belgique, le contexte politique c'est il n'y a aucun parti à la droite de Macron et de Renaissance. Donc le parti le moins à gauche ou le plus à droite, c'est le parti de Charles Michel, le président du Conseil européen. C'est comme si à l'Assemblée nationale, si vous voulez, il n'y avait pas les Républicains et le Rassemblement national. Donc tous ces partis ont fait un accord le 8 mai, vous voyez déjà la ficelle, en rappelant dans le préambule les heures sombres de l'histoire, disant qu'il ne fallait faire aucun accord avec, entre guillemets, l'extrême droite, mais extrême droite qui n'est jamais définie. Et donc un membre d'un parti dit démocratique en Belgique francophone ne peut pas participer à un débat politique avec, entre guillemets, l'extrême droite, ne peut pas les saluer, ne peut pas leur faire la moindre promotion, ne peut pas en parler sur Twitter, il ne peut absolument rien faire. Donc les partis politiques se sont auto-interdits, et c'est valable pour tous leurs membres, pas seulement pour les leaders politiques, de faire une quelconque promotion, même indirecte, des partis considérés comme extrémistes du côté droit. Mais ce qui est plus grave, c'est le cordon sanitaire médiatique. Là aussi, il faut partir du paysage politique francophone. C'est un peu comme si, en France, vous n'aviez pas Le Figaro, pas CNews, pas Valeurs, pas Le Journal des Dimanches, pas Causeur. Donc, au fond, aucun média de droite ou conservateur. En Belgique, donc, tous les médias sont à l'extrême gauche. Et ces médias ont pris eux-mêmes la décision de boycotter toutes les idéologies de droite qu'ils considèrent comme extrémistes. Mais ça ne fait, il n'y a aucune loi qui a été votée. C'est un pouvoir discrétionnaire qu'ils se sont auto-attribués.
Alors, deux choses. Premièrement, à quand remonte ce cordon sanitaire? Et deuxièmement, est-ce que ça touche aussi les médias publics? Parce que théoriquement, on pourrait croire que les médias publics ont l'obligation de recevoir des représentants de toutes les forces politiques, des représentants de tous les courants d'idées. Donc, point d'origine Et ensuite, est-ce que ça touche les médias publics?
Alors, le point d'origine, c'est 91. C'est une grande victoire du VLAMS. À l'époque, ça s'appelait le VLAMS bloc, le parti. Aujourd'hui, voilà, un parti de droite qui a des liens, qui siège au Parlement européen avec le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Et à
un parti flamand, nationaliste flamand, séparatiste.
Voilà, séparatiste flamand nationaliste qui gagne les élections en 91. Et donc, à partir de ce jour-là, les partis francophones se mettent autour de la table et décident de n'avoir aucun rapport avec ce parti. Mais il a été réactualisé l'année dernière lorsque le président du parti de Charles Michel a eu l'audace d'aller participer sur une chaîne flamande à un débat avec quelqu'un du Vlaams Belang, donc ce parti proche du Rassemblement National. Et tous les partis de gauche francophones se sont affolés et ont exigé de réactiver, à travers une charte de la démocratie, ce cordon sanitaire qui est aujourd'hui en vigueur plus que jamais.
Donc l'idée même de débattre avec quelqu'un, et c'est interdit. Donc débattre avec un représentant, je dis l'équivalent français du RN, le débat en lui-même a une forme d'effet contaminant, radioactif, donc on ne doit pas accepter la possibilité du débat.
Exactement. Ce serait absolument impossible si Marine Le Pen était belge ou Jordan Bardella était belge. Ce serait absolument impossible d'avoir un représentant des partis au Parlement venant débattre avec eux.
Alors, une autre question directement sur le contexte francophone, ensuite une question pour Arthur de Vatrigan. Mais dans ce contexte, est-ce que le débat public lui-même, au-delà des partis, je laisse les partis de côté, est-ce que dans les médias, par exemple, il y a les courants de pensée plus conservateurs, entre guillemets, sont admis dans les médias belges francophones? Est-ce qu'il y a au moins là un petit espace de respiration démocratique?
Non, absolument pas. Donc, il y a plusieurs conséquences au cordon sanitaire. Bon, d'abord, c'est forcément antidémocratique, mais ça a aussi comme conséquence qu'on prend les lecteurs et les citoyens pour des idiots. Hein. Ils ne sont pas capables eux-mêmes de se faire une opinion. Mais surtout, ça élimine et anesthésie toute forme de débat public. Alors, pas seulement sur des sujets dissensibles comme l'immigration ou l'islam, mais y compris, par exemple, sur l'Europe. Il n'y a pas de débat sur l'Europe. En Belgique, tous les partis sont fédéralistes. Tout le monde est pour le pacte vert européen. Tout le monde, y compris il y a quelques années, en 2019, était pour la sortie du nucléaire en 2025, l'année prochaine. Quand sur les sujets sociétaux, le mariage homosexuel, l'adoption des homosexuels, la PMA, la GPA, tout ça, il n'y a pas de débat, si vous voulez. Le camp progressiste décide que c'est bien, et du jour au lendemain, les partis politiques et les médias suivent. Donc, sur des sujets qui sont au cœur de l'actualité en France, qui sont quand même importants pour les citoyens, il n'y a aucun débat en Belgique francophone.
Arthur Vatrigan.
Est-ce qu'il existe un cordon sanitaire des idées ou même sémantique? C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, il n'y a pas de journaux dits conservateurs ou droite, mais avec l'évolution de l'actualité belge, peut-être que des sujets nouveaux viennent, ou alors qu'ils n'ont même pas le droit d'en parler. C'est-à-dire des mots qu'ils ne peuvent pas utiliser. Jusqu'à quel point ce cordon sanitaire irradie en fait toute la sphère médiatique?
Non, ça irradie toute la sphère médiatique. Et l'association des journalistes, d'ailleurs, est la première à promouvoir ce cordon sanitaire. Et elle pond régulièrement des guides comment les médias, les termes que les médias doivent employer par rapport à l'immigration, par rapport à l'islam, par rapport à la théorie du genre. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de commissariat politique qui est l'association des journalistes qui fixe les règles et qui émet des sanctions si ces règles ne sont pas respectées.
Vous voulez dire que la censure, je devine que vous me direz si le terme convient selon vous, mais une forme de censure est exercée par le milieu des journalistes?
Non, mais ce n'est pas une forme de censure, Mathieu Bock-Côté. C'est une censure. Donc, une opinion qui sort du cadre ne sera jamais exprimée. C'est-à-dire que la personne pourra l'exprimer sur les réseaux sociaux, mais il n'aura jamais accès aux médias. Je vous donne un exemple très concret. Donc, il y a un nouveau parti avec lequel, je précise, je n'ai strictement rien à voir, qui est proche du Rassemblement National et du Vlaams Belang, qui cherche à s'implanter. Lorsqu'ils se sont lancés, ils ont fait venir Jordan Bardella, qui n'est quand même pas n'importe qui. Eh bien, personne n'a couvert la conférence de presse de lancement de ce parti. Et ça va plus loin que ça. Donc, non seulement on ne donne aucune visibilité à leurs idées, mais ils sont dans l'impossibilité de se réunir même dans des lieux privés. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand ils veulent se réunir, ben forcément, ils font la publicité de leur réunion sur les médias sociaux et immédiatement, les Antifa et le principal syndicat belge, l'équivalent de la CGT en France, appellent des manifestants, essayent d'empêcher la manifestation de façon violente et donc les bourgmestres, les maires interdisent la manifestation alors que la violence ne vient jamais de ce parti. Donc vous voyez, non seulement on n'en parle pas, mais ils ne peuvent même pas se réunir.
Mais normalement, quand des gens veulent se rassembler librement et que des gens cherchent à empêcher ce rassemblement, les autorités ne cherchent pas à assurer le droit au rassemblement des gens dont vous parlez.
Je vous invite à venir un peu plus souvent en Belgique francophone. Non, au contraire, les autorités sont les premières à l'empêcher. Et ça se fait en général au dernier moment. Donc il y a même
en
pas moyen
on a des craintes pour la sécurité publique et on doit dès lors interdire
c'est
l'événement.
C'est au nom de l'ordre public, menace de trouble à l'ordre public.
Comme ça, on le voit en France aussi, cela dit.
Oui, mais sauf qu'en France, le Rassemblement national a pignon sur rue, donc on n'imagine pas que Jordan Bardella et Marine Le Pen ne puissent pas être invités dans les débats. Je précise, je n'ai aucune sympathie pour ce nouveau parti, mais je trouve qu'il doit pouvoir se réunir et s'exprimer, d'autant plus que ses équivalents sont, dans les sondages, les premiers partis, que ce soit en France, en Flandre ou aux Pays-Bas, par exemple.
Alors comment les Belges francophones voient-ils la France ? Alors, j'ai souvenir d'un journaliste de CNews, je crois, qui voulait interviewer Paul Magnette, si je ne me trompe pas, et qui est une figure importante dans la politique chez vous, si je ne me trompe pas.
Très important.
Vous nous préciserez son titre. Et il dit « Ah, c'est où, je ne parle pas. Je n'accepte pas. » Un peu comme la présidente de la CGT ici. Mais là, c'est un homme politique important qui dit « Je n'accepte pas. » Donc, pour lui, c'est comme si un média illégitime se présentait dans le périmètre... avait traversé les frontières du cordon sanitaire belge?
Absolument. D'abord, c'est un homme très puissant. C'est le bourgmestre de Charleroi. C'est la première ville...
Le bourgmestre, c'est le maire.
Le maire de Charleroi, la première ville de Wallonie. Mais c'est aussi le président du Parti Socialiste qui domine la Wallonie depuis 40 ou 50 ans. Et donc, effectivement, il a refusé de répondre à CNews. Alors, il faut bien voir que CNews n'est pas diffusé en Belgique. Tous les Belges regardent la télévision à travers le câble. Ils ont accès à LCI, ils ont accès à BFM... mais pas à CNews. Pourquoi ? Probablement parce que les conseils d'administration de ces sociétés de distribution sont politisés, c'est-à-dire ce sont les communes qui sont à la manœuvre, donc avec des mandataires socialistes, écologiques et d'extrême-gauche. Et le problème, si vous voulez, pour des gens comme Paul Magnette, le cordon sanitaire, c'est une corde de survie. Ça leur donne une rente de situation. Ça les empêche, ça leur permet de garder un quasi-monopole du pouvoir. Parce que la Wallonie est aujourd'hui une des régions les plus pauvres au cœur d'une Europe prospère, qui n'a absolument rien à montrer en termes économiques, en termes sociaux ou en termes de résultats aux enquêtes PISA. Donc comment est-ce que les leaders socialistes ou autres d'ailleurs compensent cet échec économique et social? C'est en surrajoutant dans la dimension morale. Donc le cordon sanitaire, mais aussi lors de l'ancienne Gay Pride qui est devenue le mois des fiertés, on en fait toujours plus. Les passages pour piétons sont par exemple repeints de façon tout à fait illégale, mais ça dure pendant des mois. Donc il y a une surenchère pour montrer, pour afficher sa moralité et pour aussi masquer une sorte d'échec économique et social.
On parlera de la question de l'islamisme en Belgique dans un instant, mais une dernière question, mais presque plus personnelle celle-là. Il doit y avoir deux ou trois autres personnes comme vous, qui pensent à peu près comme vous en Belgique, je devine. La Belgique n'est pas un pays si original qu'il n'y a pas de gens plus à droite ou plus conservateurs ou plus libéraux. Comment vivent-ils dans cet environnement politique? Un sentiment d'asphyxie? Un sentiment de fatalisme?
Oui, d'asphyxie, de fatalisme et souvent de désespoir, il faut bien le dire. Donc toute personne qui tiendrait un discours un peu plus à droite que celui, disons, de Macron ou de Charles Michel, n'a pas d'accès, par exemple, aux télévisions. Or, il n'y a que deux télévisions en Belgique, c'est un petit pays, hein, la Belgique francophone, c'est 4 millions d'habitants. Donc tout est cadenassé aussi par la faible dimension du pays. Les Belges regardent beaucoup les chaînes françaises, ils s'intéressent aux chaînes françaises, et je suis sûr que si CNews était diffusé, bon, on peut le regarder sur Internet, mais c'est pas la même chose. Hein. Le soir, on va pas sur Internet, on zappe devant sa télévision. Donc je suis sûr qu'une chaîne comme CNews, si je peux lancer un appel, Eliott, c'est de pouvoir avoir un CNews belge. Je pense que ça aurait un très grand succès.
Hein. Alors, sur la question de l'islamisme en Belgique, Arthur de Vatrigan.
Bah, justement, aujourd'hui, on se dit, bon, vous faites un état des lieux assez effrayant, et on a vraiment pas envie de devenir comme la Belgique, où tout est cadenassé. Mais les Belges voient Molenbeek, ils voient les attentats, ils voient que l'immigration change le pays. On peut pas le cacher, ça. Comment expliquer une non-révolte ou un non-changement face à l'islamisation de votre pays?
Mais d'abord, parce qu'il n'y a pas d'expression politique pour ceux qui voudraient faire autrement. C'est-à-dire que si vous prenez des positions publiques, bah, vous risquez de la mort sociale, en fait. Vous risquez de ne pas trouver un boulot, d'être viré de votre boulot. Donc c'est à ce point-là en Belgique. Et puis, la transformation en Belgique, et là, je pense que c'est un signal quand même à prendre en compte en France, la bascule démographique s'est produite, si vous voulez. Aujourd'hui, la tranche d'âge entre 0 et 17 ans, c'est exactement 50-50. C'est-à-dire que c'est 50% d'origine belge et 50% d'origine étrangère. Et à Bruxelles, la capitale de l'Europe, 61% de la population est d'origine extra-européenne. Donc la majorité de la population bruxelloise, la capitale de l'Europe, est aujourd'hui d'origine extra-européenne. Et on a tous les courants de l'islam. Bon, par exemple, aujourd'hui, là, je lis dans le Figaro que ce proviseur qu'on accuse d'avoir voulu, dans le 20e arrondissement de Paris, enlever le voile d'une femme, eh bien, le CCIF, donc le Comité contre l'islamophobie en France, a été dissous par Gérald Darmanin et s'est immédiatement reconstitué en Europe. Ils ont changé F en E, Europe. Et aujourd'hui, c'est ce comité qui est à la manœuvre pour dénoncer et menacer ce proviseur. Donc ce qui se passe en Belgique, vous avez cité Molenbeek, c'est pas pour rien, c'est le fruit de 20 ans de laxisme par rapport à la montée de l'islamisme, que les attentats de Paris ont été préparés depuis Molenbeek en Belgique.
Alors, les Belges, devant cela, je reviens sur la question non pas du désespoir, mais de l'inquiétude. C'est-à-dire, est-ce que dans les faits, on voit une société fragmentée, une société fracturée, où les communautés, chacune, vivent de leur côté? Et quels sont les effets politiques de cette bascule démographique que vous avez évoquée?
Alors, effectivement, donc aujourd'hui, bon, la Belgique existe encore, mais c'est devenu en réalité deux nations, deux opinions publiques, deux médias. Donc, il y a très peu.
Donc, la Flandre, voilà, et la Wallonie.
Voilà. En Flandre, d'abord, il n'y a pas de cordon sanitaire. Et la Flandre vote à 75% à droite. Alors que la Wallonie et Bruxelles votent à plus de 60% à gauche. Donc, c'est devenu très compliqué de constituer un gouvernement fédéral.
Mais à vous entendre, il y en a trois nations, si je peux me permettre. Il y a la Flandre, il y a la Wallonie et il y a les populations nouvelles qui ne s'intègrent ni à l'une ni à l'autre.
Oui, exactement. Et là, on a des signes tout à fait manifestes, si vous voulez. Par exemple, si on prend les Turcs de Belgique. Les Turcs de Belgique, donc en général, ils ont presque tous la double nationalité. Ils ont voté aux dernières élections à 73% pour Erdogan et l'AKP, alors que les Turcs de Turquie eux-mêmes ne votaient qu'à 51% pour Erdogan. Donc c'est quand même le symbole d'un échec total, si vous voulez, de l'intégration ou de l'assimilation à partir du moment où les Turcs de Belgique votent beaucoup plus. Bon, des exemples, il y en a plein. Hein. Par exemple, la Wallonie et la Flandre ont obligé à étourdir les animaux avant de les tuer. Mais à Bruxelles, à cause du lobby musulman relayé par l'ensemble des partis de gauche qui sont désormais complètement infiltré, notamment par les frères musulmans, mais plus généralement par le lobby musulman, eh bien, en Belgique, il n'y a pas d'étourdissement des animaux avant l'abattage. Et quand il y a un match de football, comme il y a eu récemment entre la Belgique et le Maroc, eh bien, on voit très clairement que cette population belgo-marocaine, puisqu'elle a la double nationalité, ses sympathies vont évidemment au Maroc. On a même vu des drapeaux belges arrachés des façades, mais ça n'a pas été couvert non plus par les médias.
Nous en avions parlé ici.
Donc il faut que ce soit CNews qui en parle, comme CNews probablement, comme je peux aujourd'hui parler chez vous du cordon sanitaire, comme personne ne peut le faire en Belgique francophone.
Alors, il nous reste environ 2 minutes. Vous nous présentez une situation au mieux désespérée de votre pays. Est-ce que vous avez néanmoins, vous voyez des possibilités de redressement au sens, je dirais, presque libéral, c'est-à-dire retrouver un espace de liberté intellectuelle, retrouver un espace de liberté médiatique, retrouver un espace de liberté politique, ou au fond de vous-même, vous dites que il y a quelque chose d'un peu foutu, finalement?
Bon, là, vous me posez une colle. Je veux dire, effectivement, ça a un côté un peu désespérant. À partir du moment où il y a eu cette bascule démographique, à partir du moment où au Parlement régional bruxellois, mais les parlements régionaux ont beaucoup plus de pouvoir en Belgique qu'en France, vous avez un imam qui, à l'invitation de mandataires socialistes, est monté à la tribune et a pu réciter une sourate antisémite, d'ailleurs, du courant de la tribune d'un parlement, vous voyez qu'une étape a été franchie. Alors, bien entendu, les médias en ont parlé, mais ils en ont parlé sur le mode du fait divers et pas sur le mode d'un phénomène de société profond. Donc, je crois que la principale bonne chose qui puisse arriver à la Belgique, c'est que CNews, j'y reviens, débarque en Belgique et que on puisse avoir une autre vision des choses. Et puis, je crois que les Français doivent s'intéresser à la Belgique parce que ce qui se passe chez nous arrivera chez vous s'il n'y a pas une réaction un peu ferme qui se produit dans les prochaines années.
Une minute pour une dernière question à Arthur de Vatrigan.
Est-ce que le salut ne viendrait pas de l'Europe?
Non,
parce que vous dites Bruxelles, capitale de l'Europe. On voit une vague plutôt nationaliste, avec tout le monde, même si c'est un mot péjoratif, plutôt conservateur, plutôt anti-islamisation qui arrive. Est-ce que cette vague déjà existe en Belgique et est-ce que vous ne pourrez pas miser dessus pour essayer de sauver la Belgique
La vague Wallonie n'existe pas en Belgique, donc il n'y aura aucun parti en Belgique francophone qui se présentera à la droite du parti équivalent à celui de Macron et Renaissance. Donc cette offre politique en Belgique francophone, elle n'existera pas. Et puis, on verra au niveau du Parlement européen, mais il faut bien voir que le pouvoir, il est en partie au Parlement européen, mais il est surtout au niveau de la Commission et de l'appareil. Aux États-Unis, on parlerait du deep state, mais il y a un deep state, un État profond composé de fonctionnaires qui en fait dicte la politique européenne plus que le Parlement.
Eh bien, merci beaucoup Alain Destex pour ce témoignage sur la situation en Belgique. Je rappelle votre ouvrage qui paraîtra début avril, Rwanda 94, 30 ans après, retour sur place. Un grand merci. Merci à tous les deux.
Merci.
Vous reviendrez pour parler de votre livre.
Mais volontiers, Eliott, si vous
voulez. Écoutez, merci. Et si vous comptez lancer un CNews belge, il y a une règle, il faut inviter tout le monde. Toutes les opinions sont les bienvenues.
Ah oui, ça, j'ai compris. D'accord. À suivre l'actualité de CNews
ces derniers temps. Parler du RL et inviter tout le monde, bien sûr. On revient dans un instant pour l'heure des Pro 2. Merci à tous les trois.
Merci.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.